Oui, bonsoir à tous. Donc, en effet, comme l'a dit Florence, ce soir, j'ai malheureusement une obligation. Je vais être obligé de reprendre le TGV. Ça a rapport avec Dali, puisque demain matin, je dois assurer une visite. Je ne vous dis pas avec qui, mais peut-être si elle a lieu, parce que je doute encore, mais je vous dirai de qui il s'agissait la semaine prochaine. Voilà, mais je doute encore à cause du personnage et de son arrivée tardive. Voilà, donc, je suis très, très heureux d'être parmi vous. Et en effet, l'idée, c'est de parler bien sûr de la sculpture d'aujourd'hui. D'abord, est-ce qu'elle existe encore ? Est-ce qu'elle n'a pas éclaté en de multiples catégories, ready-made, installations, performances ? Est-ce qu'il convient encore de parler de sculpture ? Et bien sûr, mes deux prochaines séances seront essentiellement consacrées effectivement au XXe siècle. Mais il m'a paru extrêmement important pour poser les questions de voir à quel moment se constitue notre idée même de sculpture, c'est-à-dire la sculpture telle qu'on la voit dans les musées, et de comprendre de quel partage, de quelle séparation elle vient, c'est-à-dire comment la sculpture s'est d'une certaine façon constituée en s'écartant d'autres pratiques plus vastes qu'on pourrait appeler celles du domaine du sculpté, ER, qui aujourd'hui font retour. Il suffit de regarder une œuvre d'Annette Messager utilisant des mannequins, tel autre artiste utilisant des machines, depuis Tinguely jusqu'aux artistes les plus contemporains. Donc, pour s'apercevoir que peut-être quelque chose qui avait été écarté du champ de la sculpture fait retour aujourd'hui, et il s'agit de comprendre pourquoi. Donc, en effet, c'est pourquoi je commencerai au XVIIIe siècle, et je commencerai notamment par l'un des grands théoriciens de la sculpture, qui était en même temps un sculpteur. Forcément, il parle bien de ce qu'il connaît. C'est Étienne Maurice Falconet. Étienne Maurice Falconet écrit dans ses Réflexions sur la sculpture, nous sommes en 1761, Falconet vous est connu notamment par ce groupe de Pygmalion et Galatée qui est au Louvre, qui date de 1763. Et je cite, voilà ce qu'il écrit, « C'est la nature vivante, animée, passionnée, que le sculpteur doit exprimer sur le marbre, le bronze, la pierre. » Puis, je le cite toujours, « Le nu est le principal objet de l'étude du sculpteur. » Puis, plus loin encore, « Il faut rechercher avec sentiment le beau naturel. » Donc l'auteur qu'admirait tant Diderot donne donc une définition assez stricte, vous voyez, marbre, bronze, pierre, nu, beau, naturel, une définition stricte, voire restrictive de la sculpture comme un art libéral opposé aux arts mécaniques, c'est-à-dire aux arts manuels, comme on le disait à l'époque. Pourtant, il fut un temps assez long, somme toute, où, depuis la Renaissance et jusque vers ce milieu du XVIIIe siècle, la sculpture n'était pas séparée et bientôt même physiquement retranchée dans les musées qui allaient apparaître avec la Révolution française de tout cet ensemble de pratiques que je propose d'appeler le sculpté. Les automates, les fontaines artificielles, certaines formes d'art populaire et religieux qui ne pouvaient tolérer le nu recommandé par Falconet. En effet, au temps des cabinets de curiosité, disons entre 1540 et 1740, date large, ce que Horst Bredekamp appelle la chaîne historique entre la forme naturelle, la sculpture antique, l'œuvre d'art et la machine, on appelait ça artificialia, naturalia, machinamenta, auxquels viendront bientôt s'ajouter les exotica, c'est-à-dire des sculptures ou des fétiches qui viennent de pays qui ne sont pas européens. Cette chaîne historique expliquait et même requérait la coprésence des éléments de cette chaîne dans tous les cabinets de curiosité, que ce soit celui de Rodolphe II de Prague, 1607-1610, ou alors, c'est ce que je vous ai montré enfin, en bas, en couleur, le château d'Ambrasse de Ferdinand de Tyrol, où le premier cabinet de curiosité avait été installé en 1573, ou alors, tout à fait à gauche, et vous voyez son portrait, le fameux cabinet de curiosité appelé le Kirchnerarium de 1641, fondé par le père jésuite Athanase Kircher. Benvenuto Cellini n'avait eu aucune hésitation à recourir à un artifice mécanique pour impressionner le roi François Ier le 5 janvier 1545. C'est lui-même qui le raconte dans son autobiographie. Lisez-la, parce que c'est extrêmement vif comme artiste, un artiste qui a tué plusieurs personnes, qui a été un soldat, qui maniait l'épée de même que le ciseau de sculpteur et qui raconte admirablement bien tout ceci. En tout cas, il raconte une histoire que Alexandre Évariste Fragonard a représentée dans ce tableau qui se trouve au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors, il n'est pas fidèle, hein, mais c'est un tableau qui date de 1820-1830, à l'époque où on avait ce goût pour les scènes de la Renaissance ou les scènes médiévales. Donc, l'histoire est la suivante. La duchesse d'Étampes, maîtresse de François Ier, que vous voyez à côté de lui, détestait Cellini. Et donc, c'était arrangé pour que le roi vienne voir l'atelier du sculpteur à la nuit. Donc, on était sûr qu'effectivement, le roi ne pourrait pas apprécier les beautés de la sculpture. Alors, Cellini tourne ce désavantage à son propre avantage, puisqu'il place une torche derrière... là, on ne la voit pas, donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas tout à fait fidèle. Derrière le Jupiter que vous voyez là. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'il place la sculpture sur un petit socle. Alors, pas ce gros socle monstrueux, mais on sent que Fragonard a un petit peu exagéré. Mais un petit socle avec des roues. Et lorsque des petites roues, mais suffisamment discrètes pour que le petit assistant qui s'appelait Ascanio puisse faire bouger la sculpture. Et lorsque le roi arrive, eh bien, on a cette lumière de la torche qui éclaire la sculpture de façon assez dramatique. Et en même temps, Ascanio donne de petits coups sur le socle qui fait que la sculpture se met en branle, en somme, se met en mouvement et provoque l'admiration de François Ier. L'art moderne devenu machina ternissait la splendeur des œuvres antiques. Et vous voyez sur la gravure du jeune Nicolas Cochin, datée elle de 1731, une poupée mécanique appelée plaisamment la charmante Catin. Vous voyez, petite. Alors bon, l'écran est loin. Mais vous voyez au premier plan cette sorte de silhouette d'une poupée qui bouge et qui va attirer d'une certaine façon des cris d'admiration à la foule. Ainsi, vous voyez que s'opposant aussi dans sa lecture à Winckelmann, Quatremer de Quincy avait écrit dans le Jupiter olympien de 1815 « La sculpture moderne, j'entends celle de son temps, alors je cite, n'a été qu'un rejeton d'une des branches de l'art antique, sous-entendant qu'il y en avait d'autres que celle de marbre, que celle de bronze, les dédalas, c'est-à-dire des sculptures automates, des sculptures polychromes de couleur, des sculptures assemblées comme ce gigantesque Jupiter, des statues, donc une sorte d'art d'assemblage. Voyons quelques exemples de ce champ élargi du sculpté qui va peu ou prou par la suite, au XVIIIe et au XIXe siècle, se réduire au nu, à l'expression figurative dans un matériau noble, le marbre ou le bronze. Lorsqu'il dirigeait la construction des jardins de Heidelberg, Salomon de Caus publia en 1615 chez Jean Norton, un libraire anglais établi à Francfort, un ouvrage appelé « Raison des forces mouvantes avec diverses machines, tant utiles que plaisantes, auxquelles sont adjoints plusieurs dessins de fontaines et de grottes ». Ce qui est intéressant dans ce livre, dont je vous montre ici une des pages, c'est que l'on y voit très clairement un groupe de Polyphème et Galatée. Tout à fait en haut, on voit le cyclope amoureux de la nymphe Galatée. Et puis un bassin avec la sculpture de Galatée qui est montée sur deux dauphins. Et vous voyez à côté, ce qui intéresse Salomon, c'est le principe d'une machine qui va permettre de faire aller et venir la Galatée devant les yeux, en quelque sorte, du Polyphème. Dans son traité de l'homme, dont je vais vous lire un petit passage que je trouve très intéressant, paru en 1648, Descartes ne voit pas l'homme comme un nu antique, mais comme une machine qui s'adapte à son environnement, comme certaines fontaines dont le mouvement est modifié par les changements de leur environnement. Je vous lis ce petit passage. Il fait allusion au fait que l'homme, lorsqu'il voit des objets extérieurs, eh bien, réagit et modifie son comportement envers ces objets. Les objets extérieurs, je cite Descartes, qui par leur seule présence agissent contre les organes de ses sens et qui par ce moyen la déterminent à se mouvoir en plusieurs diverses façons, selon que les parties de son cerveau sont disposées, et là, voilà la comparaison, sont comme des étrangers qui, entrant dans quelques-unes des grottes de ces fontaines, causent d'eux-mêmes, sans y penser, les mouvements qui s'y font en leur présence, car ils n'y peuvent entrer qu'en marchant sur certains carreaux tellement disposés que, par exemple, s'ils s'approchent d'une diane qui se baigne, ils la feront se cacher dans les roseaux. Ou s'ils passent plus outre pour la poursuivre, ils verront venir vers eux un Neptune qui les menacera de son trident. Ou s'ils vont de quelque autre côté, ils en verront surgir un monstre marin qui leur vomira de l'eau contre la face, ou chose semblable, selon le caprice des ingénieurs qui les ont faites. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'au fond, Descartes est en train tout simplement d'inventer ses œuvres interactives, puisque en marchant sur certaines pierres, eh bien, le spectateur va modifier le mouvement, provoquer donc le mouvement de ces fontaines. Plus tard, Lamétrie et Condillac, Lamétrie avec son homme-machine en 1748 et Condillac avec son traité des sensations, que je vous montre ici en bas, en 1754, reprendront cette idée de l'homme-machine. Chez Vaucanson, bon, on est ici pas très loin de ces lieux de création, notamment de Grenoble, chez Vaucanson, l'automate est un véritable objet qui permet de théoriser les rapports entre les productions de la nature et celles de l'homme. Vous voyez par exemple ici, alors je vous ai mis plusieurs images, on ne va pas toutes les commenter, on sait que Vaucanson s'inscrit dans une longue tradition d'automates. Je vous en montre un tout à fait en haut à gauche, qui est un automate du XVIe siècle, mais je vous montre aussi les horloges mécaniques avec des personnages qui se meuvent et qui est celui de Munich. Et je vous montre également donc, ces fameux automates, ce trio d'automates que Vaucanson va réaliser entre 1738 et 1739. Je vous le rappelle, le joueur de flûte, le joueur de tambour et puis surtout... La chose la plus admirable qu'on ait faite jusqu'à cette époque, le fameux canard que je vous montre en bas, qui est un canard qui est capable de digérer ce qu'on lui donne et de l'évacuer, hein, d'où cette petite timbale que vous avez en bas qui permet de recueillir le fruit de la digestion de l'animal. Donc ainsi, l'organisme est totalement singé par la machine et on pourrait penser, même si c'est beaucoup moins réjouissant, au travail de Wim Delvoye, par exemple, la fameuse cloaca, qui est une machine, mais c'est un peu morbide, tandis que là, on n'est pas du tout dans le morbide, mais dans l'idée qu'il pourrait y avoir cette manière de retrouver, grâce au processus machinique, grâce au mécanisme, la fonction organique. Et puis, bien sûr, tout ceci se termine, et on pourrait penser, bien sûr, aux machines à peindre de Tinguely, que j'évoquerai plus tard, avec cet automate sachant écrire, inventé en 1773, vous le voyez en bas à droite, par Pierre Jacquet de Rose. Ainsi, clairement, ces automates ne sont plus pour Falconet de la sculpture, mais relèvent plutôt des arts mécaniques. Il n'est d'ailleurs pas le seul à le penser. La deuxième moitié du XVIIIe siècle ne fait qu'accentuer à coups de conférences de l'Académie, de traités savants, de pratiques d'enseignement, la séparation entre la sculpture comme art libéral et les arts manuels, les arts mécaniques de l'artisanat. Le mouvement réel, l'automatisme sont particulièrement réprouvés et attaqués. En effet, la sculpture, nous disent les anciens, doit exprimer le calme, la paix. Winckelmann, par exemple, dans sa fameuse histoire de l'art chez les anciens, va commenter longuement le fameux Laocoon. J'y reviendrai. C'est Winckelmann qui parle pour la sculpture de noble grandeur et de calme simplicité. Ainsi, je vous lis par exemple ses pensées sur l'imitation des œuvres grecques dans la peinture et la sculpture qui date de 1755. Je cite Winckelmann, évidemment en traduction. « De même que le fond de la mer reste toujours calme, si agité qu'en soit la surface, de même les œuvres d'art des Grecs, quelle que soit la passion qu'elles expriment, trahissent une âme grande et paisible. » La modération avec laquelle le sculpteur anonyme d'époque hellénistique du Laocoon, qui se trouve dans les collections du Vatican, a exprimé la douleur du prêtre troyen, Laocoon. Vous souvenez l'histoire, c'est lui qui voit justement le cheval de Troie, une sculpture en bois, et qui dit « ça, c'est une ruse des Grecs, il est troyen, c'est une ruse des Grecs, il faut le rejeter à la mer ». Et il jette, il est avec ses deux enfants, que vous voyez là, diminués pour donner un côté pyramidant au groupe et pour centrer sur la figure principale, il jette sa lance et à ce moment-là, Poséidon, qui a juré la perte des Troyens, envoie un monstre marin, enfin c'est ces serpents, qui viennent donc les étouffer. Cette œuvre va beaucoup inspirer les théoriciens. Je signale que, par exemple, en 1939, le fameux théoricien, donc bien après, Clement Greenberg, va écrire un texte qui s'appelle Toward a Newer Laocoon, c'est-à-dire vers un nouveau Laocoon, qui est un texte où il demande, alors lui, il est vraiment régressif, à mon avis, il redemande à ce que les arts se cantonnent dans leur domaine et que la peinture, soit plate, que la sculpture exprime la tridimensionnalité, c'est-à-dire qu'il est très Winckelmann, finalement, hein, par rapport à ce qu'on peut imaginer comme alternative. Alors, ce groupe fait beaucoup penser parce que l'artiste, le sculpteur, a choisi de garder la bouche fermée aux prêtres troyens et à ses enfants, bien sûr, ce qui évite de déformer le visage. Et ça, Winckelmann le loue particulièrement parce que le cri, qui appartient plutôt à la poésie, c'est-à-dire au langage, aurait naturellement déformé et ne convient pas dans un art de la forme. Herder reprend cet argument dans La Plastique en 1770-1778. Je cite « Une bouche béante est en peinture une tache, en sculpture un creux. » Il trouve ça choquant, hein, et recommande aux sculpteurs la modération. Hegel, dans son Esthétique en 1835, dit « La sculpture exprime la durée calme, toujours la même. Elle doit offrir au regard l'image de la nature divine dans le calme de la félicité, se suffisant à elle-même, exempte de combat. Telle est sa principale tâche. » Et Baudelaire, dans son Salon de 1846, vous savez, ce texte terrible de Baudelaire dont il va quand même se repentir, quelques années plus tard, dans le Salon de 1846, il écrit « Pourquoi la sculpture est ennuyeuse ?» hein ? Mais on le comprend. Alors il explique, il dit « C'est un art de Caraïbes, hein ? C'est un art sauvage. » Lui, le classique, qui, comme vous le savez, n'aime pas le mouvement, il l'a écrit « Je n'aime pas le mouvement qui déplace les lignes. » Le mouvement, effectivement, rond avec les contours. Il trouve la sculpture ennuyeuse parce qu'à la différence de la peinture, elle ne pose pas un seul angle, mais plusieurs, beaucoup trop à la fois à son sens. Je vous ai dit qu'il se rattraperait en 1859 dans un deuxième salon où il parle du rôle divin de la sculpture. Bon, Herder, que j'ai déjà évoqué, et que vous voyez ici à gauche, dans cette peinture, va beaucoup plus loin dans La Plastique, toujours, un texte fondamental, 1770-1778, en associant le mouvement à l'idole païenne et à l'illusion. Car pour les hommes du XVIIIe siècle, la sculpture exprime la philosophie, exprime la vérité. Chez eux, le toucher est l'organe de vérité. La vue peut être trompeuse, mais la sculpture a un rôle de preuve. On touche, donc on vérifie. Donc Herder, lui, associe le mouvement, donc dans une sculpture, au paganisme, à l'illusion, donc à la fausseté. Je le cite. La citation est intéressante. « Le premier regard que les enfants et les néophytes portent sur une statue, la première impression qu'elle produit sur eux sont pareilles aux descriptions des statues de Dédale. » Vous savez, Dédale, c'est l'inventeur mythique de la sculpture et il avait fait les premiers automates. Bon, il y a l'histoire du labyrinthe et Icare, etc. Je cite toujours Herder. « Un respect qui confine à la crainte et à l'effroi, la sensation de voir les statues bouger et vivre, telles sont les premières impressions de l'art, surtout chez un peuple à demi-sauvage, c'est-à-dire encore très vivant. » J'adore cette... J'ai vérifié quand même le texte allemand. Il dit vraiment ça. Hein, c'est-à-dire que les civilisés, comme nous, sont assez morts. Hein. Surtout chez un peuple à demi-sauvage, c'est-à-dire encore très vivant. Et dont la perception... Mais pour lui, vivant, c'est au sens de... qu'il ne réfléchit pas. Hein. On va dire un enfant est vivant, voilà, parce qu'il fait les choses, ou quelqu'un qui est un peu simplet, il fait les choses, il ne réfléchit pas. Hein. Mais c'est quand même intéressant, en creux, de dire qu'effectivement, plus on est civilisé, d'une certaine façon, moins on est vivant. Et dont la perception porte avant tout sur le mouvement et sur le toucher. C'est pourquoi, chez tous les sauvages et demi-sauvages, les statues sont animées, démoniques. Hein. D'un autre côté, il ne faut pas donner tous les torts aux partisans de la sculpture néoclassique que je viens de mentionner, car les partisans des sciences et des techniques se mettent aussi, de leur côté, à afficher des airs de supériorité des techniques sur les arts au nom de la notion nouvelle au XVIIIe siècle. On a dit souvent, c'est après Paul Hasard, qu'une idée neuve au XVIIIe siècle, c'était le bonheur. Mais la notion nouvelle qui domine et qui va commander ensuite le XVIIIe et le XIXe siècle, et peut-être encore bien notre temps, c'est la notion d'utilité. Gottfried Wilhelm Leibniz, que vous voyez à droite, par exemple, dans une lettre sur la fondation d'une académie des arts et des sciences en Allemagne, qui date de 1671, s'étonne de ce que l'Italie, je cite, « ait abandonné la gloire des arts vivants, c'est-à-dire la technique, pour une autre bien plus obscure à son avis, et, je cite, « se contente des proportions et des structures sans vie ». Au sens des sculptures. Donc il oppose d'un côté l'Allemagne qui continuerait la tradition des automates, d'ailleurs il le dit, l'Allemagne est la reine des arts du feu et de l'eau. Hein. Alors aussi bien donc, les feux d'artifice, les horloges, les machines hydrauliques. Au contraire, l'Italie, qui, elle, s'est vouée à la sculpture, ce sont des structures sans vie. Pourtant, Leibniz, j'ai du temps, donc je vous le lis un peu, mais je ne vous la lis pas intégralement. Pourtant, Leibniz se plaît quand même dans un texte qui est magnifique, en 1695, qui s'appelle « Drôle de pensée, touchant une nouvelle sorte de représentation, une nouvelle sorte de spectacle », en 1695. Il était à Paris. Il avait assisté en 1675 à un spectacle qui l'avait beaucoup frappé. Il avait vu une machine qui permettait de marcher sur l'eau, hein, une sorte de Christ, mais machinique. Donc, ça l'avait beaucoup frappé. Du coup, ça lui avait donné une drôle de pensée et qu'il écrit. Hein. Il avait imaginé une sorte de société qui aurait un bureau des inventeurs, on pourrait envoyer des projets d'invention et puis qui réaliserait en permanence dans des lieux divers des spectacles. Et vous allez écouter, je ne cite pas tout, mais que pour lui, il s'agissait bien dans cette sorte de nouvelle société productrice de spectacles d'intégrer les arts, les techniques, l'ancien cabinet de curiosité et le musée. Bien sûr, ça n'a pas eu lieu, mais peut-être que le Centre Pompidou, au XXe siècle, c'est un peu cette idée d'associer et d'autres lieux pourraient être des lieux qui associeraient le théâtre, la musique, les fêtes foraines, les feux d'artifice, etc. Alors, je vous lis. Les représentations seraient, par exemple, des lanternes magiques. On pourrait commencer par là. Des vols, des météores contrefaites, toutes sortes de machines optiques, une représentation du ciel et des astres. Machines royales de courses de chevaux artificielles, théâtre de la nature et de l'art, théâtre anatomique, jardin des simples, laboratoire. Outre les représentations publiques, il y en aurait des particulières, comme des petites machines de nombre. Vous savez qu'il avait calculé, il est l'inventeur du calcul infinitésimal, mais il montrait aussi la machine de Pascal, la machine à calculer. Donc une sorte de conservatoire des arts et métiers lié en même temps à des lanternes magiques, vous voyez. Nouvelles expériences d'eau, air, vide pour les représentations grandes qui serviraient aussi la machine de M. Guéric de 24 chevaux, vous savez, les deux hémisphères qu'on fait le vide au milieu et 24 chevaux, 12 de chaque côté, n'arrivent pas à enlever cette pression, etc. On y ferait l'opération de transfusion et d'infusion. On donnerait au spectateur le temps qu'il fera le lendemain, s'il pleuvra ou non, par le moyen du petit homme. Ça, j'ai pas documenté encore le moyen du petit homme, mais ça doit exister. Cabinet du père Kircher. Donc, il fait allusion au cabinet qui s'était ouvert en 1641 à Rome, près du collège des Jésuites. On fera venir d'Angleterre l'homme qui mange du feu, s'il est encore en vie. Ben oui, bon. Il y a toujours un risque. On fera voir au soir la lune par un télescope, aussi bien que d'autres astres. On ferait chercher un buveur d'eau. Ça, j'ai pas bien compris. On ferait l'épreuve des machines qui jetteraient juste balistique sur un point donné. Un siècle plus tard, en 1786, le jeune Goethe explique, il est en Italie, là vous voyez un tableau qui date d'un an plus tard, il est très connu, hein, c'est le tableau de son ami Tischbein qui représente Goethe dans la campagne romaine. Ça nécessiterait beaucoup d'explications, mais pas beaucoup d'explications, mais on voit quand même le relief antique, la nature, la liaison entre la nature, le continuum, la chaîne historique entre les objets naturels, les œuvres antiques, les œuvres d'art modernes, etc. Il n'y a pas de machine ici, hein, mais bon, justement. Il n'y a pas de machine. Et le jeune Goethe explique la chose suivante. Vous savez, il est dépressif, il est parti en Italie. Alors voilà ce qu'il écrit. Les temps de la beauté sont passés. Vous savez, on a toujours des théoriciens qui pensent que le temps de l'art, l'art est mort. Hein, bah déjà, c'est un topos que Goethe aussi développe. Les temps de la beauté sont passés. Et il explique dans sa lettre, dans son voyage, dans son journal de voyage, qu'après son apaisant voyage en Italie, il se tournera vers les artisanats, donc les choses sérieuses. J'étudierai, écrit-il, la chimie et la mécanique. On comprend donc bien que Winckelmann et les tenants du noble désintéressement de l'art et des artistes, la gratuité de l'art, aient voulu soustraire la sculpture à tout ce qui pouvait en menacer la liberté, qu'il ne voulait soumettre ni à l'économie, évidemment le danger avec les machines, au capitalisme si l'on veut, ni à la technologie. Il n'empêche que ce divorce des arts libéraux et des arts mécaniques a heureusement, à mes yeux, pris fin et que peut-être le nouveau Laocoon, un peu ironique, ce serait cette machine célèbre de Jean Tinguely, la métamatique qu'il avait réalisée pour la Biennale de Paris en 1959. Alors, ce serait assez amusant d'en faire l'exégèse. Je l'ai choisi aussi par sa proximité formelle avec le Laocoon, les serpents et le serpentin de cette bande traçante. Vous voyez que cette métamatique, elle bouge, c'est un automate, elle est montée sur roulette, elle a un petit ballon pour recueillir les gaz, elle diffuse de la lavande pour éviter de polluer. Et cette machine à peindre, avec ses traceurs, projette sur la bande qui se déroule des traces. Donc c'est une sculpture qui produit de l'art. Et on voit très bien que, à la différence du Laocoon, qui va permettre à Lessing, notamment dans son texte, de séparer la poésie et la sculpture, en disant que la poésie est un art du temps, elle peut faire des récits, elle peut se développer dans le temps, tandis que la sculpture est un art de l'espace qui ne peut faire que saisir un moment. Et on voit que chez Tinguely, c'est tout l'inverse, puisque sa sculpture est installée dans le temps, elle se déploie, on peut en changer la bande, c'est-à-dire qu'elle raconte d'une certaine façon quelque chose.